La transformation post-socialiste procède d'un changement de système. C'est un changement de système politique et socio-économique, et ce changement de système est inscrit dans un contexte historique, celui de l'effondrement des régimes communistes en Europe et de l'intégration des anciens pays socialistes à l'Union européenne. Ce contexte se fonde donc sur un double processus, un processus rapide de démantèlement de l'ancien système socialiste et un processus beaucoup plus lent, en tout cas beaucoup plus progressif, d'adaptation des structures, d'ensemble, des structures politico-administratives et des structures socio-économiques en vue de l'intégration européenne. On se situe là au tournant de la décennie 1990. Et dans ce contexte et dans ce processus, l'ex-RDA semble occuper une place a priori particulière. Alors en RDA, le tournant politique s'est produit au cours de l'année 1989, mais la démocratisation du régime, l'organisation des premières élections libres ont conduit à la réunification du pays dès le 3 octobre 1990 et ont conduit à la disparition de l'État est-allemand par son absorption dans la République fédérale. Et dès ce moment, dès avant la réunification, dès que s'est amorcé le processus de changement, eh bien la transformation post-socialiste a commencé, la transformation post-socialiste a été encadrée par une politique précoce de transfert de normes, transfert de pratiques, normes et pratiques d'aménagement, normes et pratiques de gestion territoriale, transfert d'Allemagne de l'Ouest vers les nouveaux Länder, vers l'ex-Allemagne de l'Est, un transfert qui s'est accompagné d'une crise grave, une crise de grande ampleur, qui a été à la fois une dépression démographique et une dépression socio-économique. Il y a donc un changement de système, alors peut-être pas violent, mais en tout cas radical et souvent brutal, un changement de système dont les conséquences sur les sociétés locales, dont les conséquences sur les campagnes, dont les conséquences sur les territoires ruraux participent d'un processus de transformation territoriale qui a pris forme dans la conjonction de trois dynamiques principales, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Changement agraire, premièrement. Deuxièmement, changement fonctionnel, changement des fonctions socio-économiques. Troisième changement, le changement fonctionnel que je viens d'énoncer, a été porté par un changement des politiques rurales et par une inversion des politiques rurales. Un changement, une inversion qui a impulsé une troisième dynamique décisive qui a encouragé les démarches endogènes d'aménagement, les démarches venues d'en bas, les démarches endogènes de développement sur la base de la formation de nouvelles régions, de nouveaux périmètres d'aménagement, de nouveaux périmètres de l'action publique, de nouveaux périmètres d'intervention publique. On est tout au début des années 90. 20 ans après la réunification, 20 ans après le changement de système, il y a une opposition, il y a un gradient socio-économique entre l'Ouest et l'Est de l'Allemagne, entre les campagnes de l'Ouest de l'Allemagne et les campagnes de l'Est de l'Allemagne, un gradient qui demeure prononcé, qui demeure très sensible, qui demeure marqué, alors que la transformation qui s'est écoulée, qui s'est déroulée sur ces 20 années, a donné naissance à des structures territoriales originales, à des formes spatiales originales, si on les compare aux modèles transférés il y a 20 ans, si on les compare aux normes transférées il y a 20 ans. Cette différence Est-Ouest en Allemagne, tout autant que les contrastes régionaux, le gradient socio-économique que je viens d'évoquer, invite notre discipline, invite la géographie à une réflexion plus large, plus globale que la simple réflexion sur le sujet lui-même, invite cette différence Est-Ouest et la permanence de la différence Est-Ouest invite à une réflexion sur les concepts et les méthodes mobilisées pour interpréter cette transformation, pour interpréter la nature de cette transformation et pour analyser la diffusion dans l'espace des formes nouvelles de structuration territoriale, des formes territoriales nouvelles que j'ai brièvement évoquées dans cette introduction. Et cette réflexion conduira en outre à poser une autre question qui me semble importante, la question de la spécificité de l'évolution post-socialiste en Allemagne par rapport aux autres pays d'Europe centrale, parce que le même processus de transformation territoriale a été engagé dans les autres pays d'Europe centrale. Et on dit souvent que l'Allemagne a suivi une voie particulière, et c'est ce paradigme de la voie particulière ou du Sonderweg, qui est connu des historiens de l'histoire particulière de l'Allemagne, que je voudrais remettre en cause du point de vue du géographe. La photographie d'une localité située dans la moyenne montagne allemande, située dans le Land de Thuringe, en plein cœur de l'Allemagne, le Land de Thuringe étant l'un des 5 Länder orientaux de l'Allemagne réunifiée. Alors, cette diapositive est d'abord représentative de la démarche de travail qui a privilégié dans mon cas et dans le cas de l'équipe à laquelle j'appartiens, qui a privilégié l'observation localisée des faits, qui a privilégié l'enquête de terrain. Ensuite, cette photographie présente l'intérêt de permettre une lecture synthétique, que je vais faire dans un instant, une lecture synthétique du changement spatial qui a constitué l'objet d'études géographiques, elle permet de se faire une idée de ce qu'est la ruralité post-socialiste en Allemagne orientale, et c'est cette lecture synthétique de la ruralité post-socialiste en Allemagne orientale que je voudrais faire maintenant. La ruralité post-socialiste se compose d'abord d'un héritage spatial qui s'inscrit dans la longue durée de l'histoire agraire. Et ici, la morphologie villageoise rappelle la tradition paysanne, une tradition paysanne qui a marqué toutes ces régions de moyenne montagne de l'Allemagne, une tradition paysanne qui, dans le cadre de structures agraires très émiettées, a participé à la construction précoce d'effinage dès le 7e siècle, mais surtout dans la deuxième partie du Moyen-Âge. Parce que ici, c'est la colonisation médiévale qui a légué la structure d'ensemble, le groupement de l'habitat et la distribution des usages agraires sur le finage. Tout cela n'a été qu'en partie modifié par la suite, n'a été qu'en partie modifié par la première révolution agricole, puis par la collectivisation. Alors, la distribution des usages agraires distinguait terres appropriées et communaux. Les terres appropriées tapissaient les fonds de vallée, les premières pentes. Elles étaient consacrées au labour céréalier et aux prairies. Des prairies souvent ceinturées de haies bocagères et localement complantées d'arbres fruitiers. De leur côté, les communaux s'étendaient sur les versants plus ou moins abrupts de la montagne et étaient destinés au package des troupeaux. À la fin du 19e siècle, cette organisation générale du finage a été à peine modifiée par la révolution fourragère qui a introduit un début de spécialisation laitière. Et cette spécialisation a été ensuite amplifiée par la modernisation contemporaine qui ici est la modernisation socialiste, la modernisation des années 50 et 60. Alors, la modernisation socialiste a radicalement transformé les structures agraires, mais finalement, vu sur le temps long, la révolution socialiste a peu bouleversé les systèmes de culture et d'élevage. La deuxième strate que l'on peut lire sur la photographie, c'est la strate du système collectiviste. La strate collectiviste qui compose le second élément de l'héritage spatial. Et au centre de la photographie, on distingue les bâtiments de l'ancienne coopérative socialiste. L'ancienne coopérative socialiste, c'est une structure qui avait confisqué, alors non pas la propriété des terres paysannes, mais l'usufruit des terres paysannes. Une structure qui avait entrepris d'ajuster la taille du parcellaire et celle des bâtiments d'exploitation à des ambitions modernistes, à des ambitions technicistes, à des objectifs de production qui étaient ceux de la planification socialiste. Et c'est encore lisible sur la photo, la taille du parcellaire, le gigantisme du parcellaire est lisible sur cette photographie qui a été prise en 2009. La transformation socialiste a été telle qu'en 1990, c'est-à-dire à la veille de la dernière transformation, à la veille de la dernière bifurcation agraire, eh bien la coopérative que vous voyez sur la photographie regroupait 5 finages villageois traditionnels, s'étendait sur plus de 2000 hectares. Elle concentrait des troupeaux de taille impressionnante. J'avais noté lors de mes enquêtes plus de 2000 vaches laitières, 1600 brebis. Surtout, la coopérative employait la plus grande partie de la population villageoise, qui sinon était salariée dans d'autres établissements socialistes, notamment dans les établissements industriels de la vallée de la Vera, des établissements industriels spécialisés dans le traitement de la potasse ou dans la fabrication du verre ou dans la transformation du bois. Et toujours à l'époque socialiste, la plupart des aménagements communaux qui ont été réalisés l'ont été dans l'intérêt de la coopérative, dans l'intérêt de l'économie agricole. Le réseau des chemins d'exploitation a été revu en fonction du nouveau parcellaire et en fonction de la taille de l'exploitation socialiste. Ces chemins ruraux ont été élargis, renforcés à l'aide de plaques de béton. Ils devaient faciliter le passage des machines de l'agriculture socialiste. La commune a été dotée d'une maison du peuple qui dispensait les services sociaux et culturels aux travailleurs de la coopérative. Mais cette région de moyenne montagne, malgré ces changements très marqués pendant la période socialiste, n'a jamais été une priorité de la planification à l'époque socialiste. Elle se trouvait en situation de marge, en raison de son éloignement par rapport au centre de recours du système territorial, en raison de son éloignement par rapport aux villes, mais aussi en raison de sa proximité avec la frontière interallemande qui en faisait une sorte de bout du monde du camp socialiste. Troisième strate, la ruralité post-socialiste, et enfin le produit de la transformation contemporaine, d'une transformation territoriale radicale, mais surtout complexe, parce qu'elle affecte trois éléments. Elle affecte les structures de production, elle affecte les fonctions dédiées à l'espace rural, elle affecte le mode de gestion de l'espace. Alors, je reprends ces trois points. Premièrement, la transformation contemporaine affecte les structures de production. La coopérative socialiste que vous voyez sur la photographie a été obligée de se restructurer. Obligée de se structurer en une nouvelle entreprise compatible avec le droit privé et l'économie libérale. Elle a été obligée de se restructurer en entreprise sociétaire, en exploitation sociétaire, en une société. Et c'est l'ancien directeur de la coopérative qui a pris en charge les opérations. Il a conservé les structures foncières de l'ancienne exploitation parce qu'il a réussi à convaincre les propriétaires, la multitude de petits propriétaires, 500, 600, 700 propriétaires, de concéder leurs terres en fermage à la nouvelle entreprise, à la nouvelle société agricole. Et on a ici le cas suivant. L'émiettement extrême des structures de propriété a favorisé la concentration de la structure d'exploitation. Dès que la coopérative a été restructurée en société de droit privé, eh bien le chef de la nouvelle exploitation sociétaire a procédé très vite à la rationalisation des coûts de production. Comment a-t-il fait ? Il s'est séparé de la grande majorité de la main-d'œuvre, qui s'est alors repliée sur la petite exploitation à temps partiel, qui s'est repliée sur les revenus de l'aide sociale, ceux de la pré-retraite ou du chômage, ou alors une main-d'œuvre qui est allée tenter sa chance dans les villes du pourtour de cette montagne, du pourtour du massif, et plus encore de l'autre côté de l'ancienne frontière interallemande, qui sont allés tenter leur chance en Allemagne de l'Ouest. Ensuite, ce chef d'exploitation a procédé à des investissements productifs très importants dans la modernisation du capital d'exploitation et dans la modernisation des bâtiments d'exploitation. Dans le même temps, l'adaptation de cette exploitation agricole a participé au changement des fonctions rurales, a participé à la diversification, mais on pourrait dire également à la rediversification, des fonctions rurales. Pourquoi ? Parce que le système de production a été entièrement converti en agriculture biologique. Et ce choix de production est lié à l'investissement dans le village d'une grande firme agroalimentaire ouest-allemande, liée à l'installation d'une unité de fabrication de produits laitiers sous le label de l'agriculture biologique. Et la nouvelle exploitation sociétaire est devenue l'un des principaux fournisseurs de cette entreprise laitière, mais également l'un des principaux actionnaires. Cette exploitation agricole a également investi dans des circuits courts de commercialisation, dans des camionnettes de vente ambulantes, mais aussi dans des magasins paysans, dits comme tels. Bauernladen, magasins paysans, je l'ai traduit littéralement, mais ça correspond bien à la réalité. Donc des magasins paysans où elle pratique la vente directe, le dépôt-vente pour les autres produits agricoles, les autres produits artisanaux labellisés de la région, labellisés portant le label de la montagne de cette région de la Thuringe. Le nouveau choix de production procède également des contraintes imposées, puis de l'opportunité offerte par la création d'un périmètre de protection, une réserve de biosphère. Et la charte de développement de la réserve de biosphère prescrit la protection du milieu naturel, prescrit également la préservation des paysages agraires. Et le siège de la réserve de biosphère a été installé dans l'ancienne maison du peuple, au sein du village. Le siège administratif fait face au bureau de l'exploitation sociétaire. Donc la réintroduction des races locales, introduction de pratiques extensives, de pratiques biologiques, participe au maintien de la biodiversité. Ceci est conforme à la charte de la réserve de biosphère. Mais également par des contrats particuliers, la grande exploitation s'engage à restaurer les éléments traditionnels du paysage agraire, notamment les haies bocagères, les prairies complantées, les chemins ruraux arborés, les pacages de versants, pour que ces éléments du paysage rural deviennent un patrimoine rural et deviennent surtout des facteurs d'attractivité touristique. Il y a donc une entreprise de restauration et de conservation du patrimoine qui s'applique également aux bâtis villageois, mais ici, cette entreprise est prise en charge par les particuliers, par les propriétaires du bâti et par la commune qui a ouvert un musée de la Heimat, un musée régional, un musée local, un musée des traditions locales à l'intérieur du village, dans l'une des maisons les plus anciennes du village. Donc l'entreprise sociétaire a joué un rôle, la commune joue un rôle, et ce qu'il faut souligner ici, c'est que la commune a retrouvé un rôle de premier plan dans l'aménagement du territoire local, un rôle qu'elle avait complètement perdu pendant la période socialiste, puisque c'était l'entreprise socialiste qui finalement était devenue l'acteur clé, l'acteur principal de l'aménagement rural. Donc la réforme communale, introduite dès le lendemain de la réunification, s'est traduite par la restauration de l'autonomie locale et par la création d'une communauté administrative qui regroupe plusieurs communes, qui regroupe d'ailleurs les communes sur lesquelles s'étend la nouvelle entreprise sociétaire. Ce sont désormais la commune d'une part et la structure intercommunale, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, la commune et la structure intercommunale qui commandent les actions d'aménagement à l'échelle locale, qui commandent les actions de développement local. C'est le plan d'occupation des sols qui décide de la redistribution des équipements et des services. C'est le plan d'occupation du sol qui encadre la progression du bâti résidentiel, une extension qui est due à l'installation de travailleurs pendulaires venus des régions voisines, venus des districts voisins ou venus des villes du pourtour du massif qui ont établi leur résidence au village et qui vont travailler en zone urbaine. Les actions locales d'aménagement sont coordonnées donc à l'échelle supérieure d'une région de développement rural intégré. Une région rurale de développement intégré qui rassemble la plupart des communes comprises dans le périmètre de la réserve de biosphère, le périmètre protégé. Et la charte de la réserve contribue à multiplier les projets de valorisation touristique, de valorisation du patrimoine rural ou de développement d'activités respectueuses de l'environnement, comme la zone d'éco-entreprise de la commune, qui se trouve juste derrière la grande exploitation socialiste. Pour conclure sur cette photographie, en dressant les caractères de la ruralité post-socialiste, cette lecture synthétique permet de mettre en évidence les trois principales dynamiques dont je vous parlais dans l'introduction. Sortie du collectivisme, diversification des fonctions rurales et inversion des politiques publiques, inversion des politiques d'aménagement en faveur des démarches endogènes, en faveur des démarches venues du local, en faveur des démarches venues de la commune et de l'intercommunalité. Mais dans le même temps, cette lecture implique une réflexion sur les méthodes et les concepts mobilisés par notre discipline pour analyser ces formes nouvelles d'organisation de l'espace, ces formes nouvelles de structuration territoriale, et surtout pour analyser les contrastes sensibles à l'échelle régionale, que je vais vous montrer ensuite à travers des cartes. Alors, concernant les méthodes, le travail d'analyse a toujours privilégié l'analyse de terrain, l'analyse empirique, l'observation localisée des faits pour mieux construire la typologie des contrastes spatiaux ou les différentes typologies issues de l'analyse spatiale, de l'analyse statistique. Et concernant les concepts, le travail de recherche a pris assez rapidement ses distances avec un paradigme, celui de la transition, qui a été utilisé par les sciences économiques au début des années 90, pour promouvoir, pour mobiliser un autre concept, le concept de trajectoire, trajectoire de transformation, parce que le concept de trajectoire envisage les évolutions que je vous ai décrites, envisage les transformations que je vous ai décrites, en interrogeant, d'une part, la dépendance au passé, et d'autre part, en interrogeant d'autre part le contexte géographique de réception. Voilà, trois concepts, donc trajectoire, dépendance au passé, contexte géographique de réception, que je vais maintenant essayer d'expliciter en retraçant les trois dynamiques principales de transformation, sortie du collectivisme, diversification des fonctions rurales et inversion des politiques d'intervention, des politiques publiques d'aménagement rural. Alors la sortie du collectivisme constitue sans aucun doute le moment clé de la transformation globale, de la transformation post-socialiste dans les campagnes. Pour l'essentiel, la sortie du collectivisme a consisté à privatiser les structures socialistes, les structures de production agricole, et le dispositif qui a été mis en œuvre dès 1990-1991 a été conçu comme l'outil principal de la transformation du secteur agricole et de son adaptation à l'économie de marché. Mais compte tenu du rôle que jouaient les anciennes coopératives socialistes dans la gestion de l'espace rural, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, eh bien la décollectivisation, le changement des structures agraires, a aussi entraîné un changement global dans la société rurale. Car la décollectivisation a de fait démanteler, a de fait supprimer les structures qui fondaient tout le système d'encadrement socio-économique dans les campagnes socialistes. Le changement a donc été brutal et a confronté l'économie rurale à une situation de crise de très grande ampleur, qui s'est traduite en particulier par l'explosion du chômage agricole et du chômage rural. L'adaptation des nouvelles structures d'exploitation s'est alors opérée, certes, mais dans un contexte de marginalisation de l'agriculture dans l'économie locale, marginalisation de l'agriculture dans l'emploi local. Cette décollectivisation est donc un processus de changement. Et ce processus de changement s'inscrit dans une trajectoire complexe, qui conduit d'une part à l'affirmation d'un nouveau dualisme agraire, d'un nouveau dualisme des structures agraires, et qui conduit d'autre part à une adaptation différenciée, à l'échelle régionale, à une adaptation différenciée des nouvelles exploitations agricoles. Alors commençons par l'opposition structurelle. L'opposition structurelle se manifeste par la coexistence de deux types de structures. Des exploitations familiales qui ont été recréées par la privatisation, par l'intermédiaire du dispositif de privatisation, et des exploitations sociétaires qui sont issues de la restructuration juridique des coopératives socialistes. La distribution géographique des nouvelles exploitations agricoles fait apparaître des différences régionales, et des différences régionales significatives. L'agriculture d'entreprise, celle des grandes exploitations sociétaires, occupe plus de 60% de la SAU, de la superficie agricole utile, dans toutes les régions hercyniennes, mais également dans tout le Land de Brandebourg. En revanche, l'agriculture familiale domine dans le reste des régions de plaine et de bassin. On voit apparaître en filigrane à travers les limites administratives des districts les régions de Leus de l'Allemagne moyenne, mais aussi les plaques de Leus du Land de Mecklembourg, des bas plateaux pardon du Mecklembourg. Ici, la rente naturelle a été favorable à la pratique d'une céréaliculture intensive et a facilité l'adaptation des nouvelles exploitations au système productiviste, au système subventionné par la PAC et par l'Union européenne. Dans l'ensemble, les nouveaux Länder, l'Allemagne orientale, et le domaine, et la région en Allemagne, et la région en Europe, de la grande et de la très grande exploitation agricole. Concernant la réorganisation de l'espace agricole, elle est également différenciée parce que l'adaptation des différentes exploitations agricoles a été différenciée. Chaque unité de production, chaque exploitation agricole s'est trouvée confrontée à la diffusion de l'économie de marché et à la transformation de l'économie rurale. Et la carte de droite cartographie les résultats d'une analyse statistique, une analyse statistique multivariée, qui a mobilisé à la fois des variables structurelles et des variables socio-économiques, et qui a permis d'aboutir à cette typologie, distinguant des régions de grande agriculture productiviste, des régions de grande structure et de moindre intensification agricole, des régions agricoles et forestières spécialisées par défaut, des bassins d'élevage intensif, et enfin des espaces de faible concentration structurelle. Les changements spatiaux identifiés par ces deux cartes, les différences régionales identifiées par ces deux cartes, sont dues à des facteurs divers que l'on peut regrouper de manière synthétique. D'abord, les facteurs sont d'ordre économique. Lorsque le niveau d'endettement des coopératives a déterminé les conditions de leur décartélisation, lorsque le niveau d'endettement des entreprises a déterminé le choix des nouvelles formes juridiques, parce qu'il y a plusieurs formes juridiques, plusieurs statuts juridiques d'entreprises sociétaires, lorsque le niveau d'endettement a déterminé les modalités de reconstitution du capital des nouvelles exploitations. Les disponibilités foncières également, les aptitudes professionnelles des coopérateurs relèvent également des facteurs socio-économiques qui ont influencé souvent de manière décisive la sortie de la coopérative et la création d'une exploitation individuelle. Mais il faut interroger un autre facteur, un facteur peut-être plus strictement géographique, celui des localisations, car les localisations géographiques ne sont pas sans conséquence sur la répartition nouvelle des systèmes de culture, sur les différents niveaux d'intensification agricole, car ces derniers dépendent autant des possibilités de la rente naturelle, des aptitudes du milieu, si on peut dire, que de la proximité relative des marchés de consommation, mais également de l'organisation des réseaux de transformation et de commercialisation agroalimentaire. Mais, et c'est là le troisième facteur que je voudrais souligner, ces lieux et ces localisations forment surtout un potentiel. Un potentiel que les acteurs sociaux ont mobilisé de manière différente selon les stratégies d'adaptation qu'ils ont été capables de mettre en œuvre. Le rôle des acteurs sociaux sur lequel j'insiste maintenant est à mettre en relation avec le poids du passé, avec la détermination du poids du passé. Alors on pourrait supposer que les vieilles régions d'agriculture paysanne sont redevenues des régions d'agriculture paysanne. On pourrait supposer que les vieilles régions de grands domaines dans cette Allemagne orientale sont devenues des régions d'agriculture d'entreprise. En fait, les choses se sont passées différemment. Les héritages agraires ont joué de manière différenciée sur la distribution géographique et sur la part relative des nouvelles structures d'exploitation. Les régions de moyenne montagne, qui sont aujourd'hui des régions de grande exploitation sociétaire, qui sont aujourd'hui des régions d'agriculture d'entreprise, étaient avant-guerre, pas si longtemps que ça, des régions d'agriculture paysanne aux structures émiettées. Deuxième exemple, sur les anciennes terres domaniales, sur les anciennes terres de grands domaines du nord de l'Allemagne, la grande exploitation s'est maintenue aujourd'hui. Cette grande structure exprime une continuité structurelle qui remonte à la colonisation médiévale. Mais les bifurcations récentes de l'histoire agraire ont conduit à des ruptures beaucoup plus qu'à une continuité. Le grand domaine nobiliaire a été éradiqué en 1945 par la réforme agraire. Les fermes d'État qui ont été constituées pendant la période socialiste ont été liquidées entre 1990 et 1993. Et les exploitations successeurs des coopératives tendent à s'effacer progressivement devant les formes individuelles d'exploitation agricole. Donc ces deux exemples montrent que la question des différences structurelles à l'époque post-socialiste, à l'époque contemporaine, ne se pose pas seulement en termes d'opposition entre d'une part exploitation familiale et d'autre part exploitation sociétaire. Elle ne se pose pas non plus simplement en termes de rupture et de continuité par rapport aux formes antérieures. Elle montre que s'il existe des logiques d'héritage, si ces logiques d'héritage pèsent sur le changement structurel, ces logiques d'héritage se conjuguent également à d'autres logiques, des logiques de transfert qui ont été imposées par le changement de système, et des logiques d'innovation qui relèvent des acteurs sociaux, qui relèvent du rôle des acteurs sociaux. Et ces logiques se combinent. Ces logiques combinent leurs effets pour définir des trajectoires de transformation, des trajectoires de transformation variables, variables selon les lieux, des trajectoires de transformation qui conduisent à l'hybridation des formes sociales de production, à l'hybridation des formes nouvelles de production en agriculture. Deuxième dynamique, la diversification des fonctions rurales. Il en est de même concernant la seconde dynamique de transformation socialiste. Dans le contexte qui a vu se marginaliser l'activité agricole dans l'économie rurale, eh bien, la diversification de l'économie locale a été souvent présentée par les politiques publiques comme la voie de sortie de crise, la bouée de secours. Alors cela suppose d'abord la définition de catégorie spatiale que je ne montre pas ici. Qu'est-ce que le rural et qu'est-ce que le rural défavorisé pour pouvoir l'aider? Mais cela suppose ensuite l'implication des sociétés locales dans l'identification et la valorisation de ressources nouvelles, la recherche de ressources nouvelles. L'intention pousse les acteurs locaux à repenser le territoire, à reconsidérer ses potentialités en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois, selon de nouvelles logiques de production et de consommation. Et en Allemagne, ces logiques favorisent en particulier la construction du patrimoine rural en ressources du développement local. En Allemagne, c'est le paysage qui est mobilisé comme élément de patrimoine dans de très nombreux programmes d'aménagement. Et d'une certaine manière, la valorisation du patrimoine rural contribue à reconstruire le territoire local, à le remodeler, comme je vais le montrer dans un instant, à le remodeler à travers le prisme ou le filtre des projets de développement. Toutes les opérations d'inventaire, les opérations de construction de la ressource patrimoniale tendent à recomposer la Heimat, le territoire local, en Allemagne, à partir d'une lecture finalisée du territoire, à partir d'un réagencement des formes spatiales à des fins de développement touristique, afin de développer l'attractivité touristique, mais au prix de l'extraversion des économies locales. Alors, l'exemple du parc paysager de Help en Mecklembourg, sur les bas plateaux du Mecklembourg, illustre très concrètement la façon dont le projet de mise en valeur touristique modifie les fonctions conférées aux différents éléments qui composent le territoire local. Alors le parc embrasse un vaste open field céréalier. Un vaste open field céréalier qui s'étend sur de bas plateaux, les bas plateaux lacustres du Mecklembourg, plus ou moins ondulés. L'habitat est groupé en petits villages, qui souvent dans cette partie de l'Allemagne se serrent autour des bâtiments de l'ancien grand domaine. Et le projet a consisté à tracer un sentier de promenade et de découverte après avoir dressé l'inventaire du patrimoine valorisable. Alors, qu'est-ce qui a été valorisé? Les anciens moulins à vent ont été remis en état pour devenir des musées des techniques rurales traditionnelles. Les bâtiments agricoles de l'ancien grand domaine ont été reconvertis en ateliers de restauration du vieux matériel agricole. L'inventaire mobilise également les éléments du milieu naturel, le bâti villageois, les aménagements agraires hérités. Et le sentier est voué à la promenade et aux loisirs. Il comprend des aires de repos, des points de vue sur le paysage, un lieu de baignade et une station de calèche. Alors, la question se pose alors de savoir comment s'opère le changement fonctionnel dans la campagne socialiste lorsqu'il est encadré par une politique d'intervention aussi incitative. Et là encore, on peut se rendre compte que la transformation territoriale s'avère complexe. Elle ne suit pas un tracé linéaire, processus linéaire d'un processus de rattrapage. Car le transfert de modèles d'aménagement se heurte à des formes héritées de structuration territoriale, un héritage du passé qui contribue à différencier les trajectoires de transformation. Alors le travail d'analyse et de typologie, trajectoire de diversification par défaut, pratique de la double activité, diversification agricole par la filière biologique, spécialisation touristique, absence de diversification, montre en fait que les dynamiques se greffent sur des contextes territoriaux différents. Et les contrastes spatiaux montrent que la diversification des activités rurales progresse de manière inégale selon les lieux, que le changement fonctionnel est toujours en cours 10 ans ou 20 ans après le changement de système, et que l'adaptation des économies locales se différencie à partir des formes, des structures et des pratiques héritées. Cet héritage constitue une sorte de potentiel, et non pas une table rase, un potentiel à la rediversification rurale, à la rediversification de l'économie rurale. Troisième et dernière dynamique, la décollectivisation et la diversification des activités rurales s'est déroulée en même temps qu'a été modifiée la gestion des territoires ruraux. Et la transformation post-socialiste procède en troisième lieu de l'évolution des politiques publiques qui ont présidé ces 20 dernières années en Europe à redistribuer les prérogatives, à redistribuer les compétences en matière d'aménagement en faveur des échelons locaux, en faveur des échelons inférieurs du système territorial, en faveur de la commune et de l'intercommunalité. Et en Allemagne orientale, la fin du socialisme, la fin de la gestion administrée, a d'abord donné lieu à une sorte de banalisation institutionnelle du territoire. Les Länder ont été restaurés, les Kreise ont été réformés, les communes ont récupéré, l'autonomie communale ont récupéré leur pouvoir. Mais surtout, la politique d'aménagement a voulu faciliter la coopération intercommunale, a voulu généraliser les périmètres du développement local pour stimuler la valorisation des ressources nouvelles dans les espaces ruraux. Les périmètres de développement local se sont multipliés jusqu'à une situation d'enchevêtrement qui, d'une part, est une bonne nouvelle, qui atteste de la diffusion du nouveau modèle d'intervention publique dans la campagne socialiste. Mais, et c'est un peu le revers de la médaille, parce que ces périmètres du développement endogène se fondent sur un système contractuel, un système de contractualisation des objectifs, contractualisation des moyens avec les niveaux supérieurs du système territorial, ces périmètres dépendent de l'implication des acteurs locaux dans ces programmes, dans ces projets, dépendent de leur capacité à s'organiser en réseau de coopération. Et selon les lieux, les initiatives locales, l'investissement des personnes, l'investissement des individus, s'affirment de manière plus ou moins autonome à l'égard de la tutelle administrative. Les périmètres d'action sont tracés de manière plus ou moins cohérente avec les projets de développement. La troisième dynamique est en cours, l'inversion des politiques d'intervention se produit, mais c'est enclenché, au contact de l'héritage socialiste, et a enclenché un mécanisme d'hybridation des pratiques du développement local, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes pratiques qu'en Allemagne de l'Ouest. En 20 ans, les trois dynamiques que j'ai décrites ont transformé en profondeur la structuration des espaces ruraux. Ces dynamiques ont été portées, encadrées par une politique globale de réforme, de transfert de normes et de pratiques venues d'Allemagne de l'Ouest. Et la question qui se pose, que j'ai posée tout à l'heure en introduction, est de savoir si l'Allemagne orientale constitue un cas original ou un cas particulier au sein de l'ensemble des pays du bloc socialiste, qui connaissent également ce triple processus de transformation. Alors, d'une part, c'est vrai, le contexte politique, celui de la réunification, la rapidité des changements institutionnels, la rapidité des changements structurels, distingue l'Allemagne orientale des autres pays de l'ancien bloc socialiste. Mais certes, les faits politiques, les faits socio-économiques propres à l'histoire du pays influent sur la trajectoire de transformation, mais ce que je voudrais montrer ici brièvement, c'est qu'ils ne déterminent pas, a priori, les formes de valorisation du potentiel territorial que j'ai voulu montrer précédemment. Les faits politiques et les faits socio-économiques ne déterminent pas a priori l'évolution des structures spatiales qui dépendent d'autres choses, qui dépendent avant tout des modalités de l'implication des sociétés locales dans le processus de changement. L'argumentation plaide ici pour que l'historicisation des processus ne devienne pas un déterminisme. Et donc, on lit des effets de gradient, et en Allemagne, les phénomènes ne sont qu'amplifiés par rapport aux autres pays, des effets de gradient qui composent une mosaïque territoriale. Pour conclure, pour suivre et comprendre les mécanismes du processus de transformation, la géographie a d'abord emprunté aux sciences économiques le concept de transition. Concept de transition qui a été également utilisé par les sciences politiques. Alors, le paradigme a été utile au départ pour analyser les politiques de transfert, transfert des normes de fonctionnement de l'économie de marché, pour analyser les transferts de modèles d'administration et de gestion territoriale. Le concept est donc opératoire en amont. Il permet d'identifier les intentions des acteurs, le contenu des dispositifs d'intervention et les phases de leur mise en œuvre. Mais le concept a aussi montré ses limites en aval. Pour la lecture de la transformation et de ses conséquences sur les structures de l'économie, sur les pratiques sociales et surtout, pour nous géographes, sur l'organisation de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'il suppose a priori le point d'aboutissement du changement, le point d'aboutissement du processus de changement. Il préjuge de l'état final en référence aux évolutions survenues dans le pays exportateur de modèles, dans le pays exportateur de normes. Et donc le concept de transition a conduit à une interprétation qui occulte ou alors qui minimise le rôle des héritages du passé ou qui ne conçoit le passé et ses héritages qu'en termes de blocage, qu'en termes d'inertie s'opposant à la diffusion du nouveau système. Il n'autorise l'analyse des résultats qu'à la mesure des échecs ou des écarts constatés par rapport à la norme transférée et tend à faire de l'historicisation du processus un déterminisme du changement. Et cela va dans le sens de l'existence, cela va dans le sens de l'idée de l'existence d'une exception allemande ou d'une voie particulière. Or, si le changement systémique est à l'origine du changement spatial, il n'en détermine pas a priori l'aboutissement. Et donc, en géographie, notre école de géographie, pour interpréter les formes nouvelles de structuration territoriale, pour interpréter les contrastes spatiaux, ceux qui sont si sensibles à l'échelle locale et régionale, eh bien notre discipline a préféré mobiliser le concept de trajectoire, pardon, parce qu'il fonde la recherche des causalités spatiales sur la dépendance au passé d'une part et sur le contexte géographique de réception d'autre part. Cela signifie que selon les lieux, selon les caractères hérité de ces lieux, eh bien le rythme et les modalités de la transformation spatiale diffèrent. Les stratégies des acteurs combinent plusieurs logiques, des logiques de transfert, des logiques d'héritage, des logiques d'innovation qui conduisent à la formation de structures hybrides, de formes territoriales originales qui composent la nouvelle mosaïque territoriale des campagnes non seulement en Allemagne orientale, mais aussi en Europe socialiste. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.